Alain Persuit, vous êtes chargé de mission environnement au Centre régional de la propriété forestière. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir comment accompagner ce changement climatique dans notre région. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Alain Persuit, quelles sont les nouvelles méthodes de sylviculture qui permettent de s'adapter ou de prévenir ce dérèglement climatique ?
C'est une question qui agite beaucoup le monde forestier. J'aurais presque envie de dire qu'en fait, il s'agit de nouvelles utilisations d'usages anciens, c'est-à-dire de revenir à ce que l'on faisait il y a un siècle ou deux en matière de sylviculture, où on avait en France, et notamment en Poitou-Charentes, beaucoup plus de futaies dites irrégulières, c'est-à-dire avec des arbres de tous âges, de tout diamètre, sur une même parcelle en forêt. On a beaucoup simplifié ça en faisant de la futaie régulière et donc en tendant parfois vers certains types de monocultures, qu'elles soient feuillues ou résineuses. Donc c'est de revenir un petit peu à ce qui se faisait autrefois, où il y avait peut-être moins de pression du monde économique, pour bien dire les choses comme ça. Essayer de tirer profit de toutes les études et recherches, observations qui sont faites par les naturalistes, les écologues et qui travaillent sur les milieux, et la forêt est un milieu. Et puis, sans doute, tendre vers ce que certains appellent une sylviculture plus proche de la nature. Il y a toute une école forestière qui s'appelle ProSylva, où on fait de la sylviculture d'arbres, mais en conservant, par exemple, toujours un caractère bien forestier, une ambiance forestière. Donc, finalement, quelque chose de beaucoup plus précautionneux. Mais autrefois, on le savait, ça. Puis peut-être qu'on avait perdu ça de vue. Donc voilà, c'est revenir à certains fondamentaux, probablement, mais quel est le métier qui n'évolue pas, qui ne change pas. Donc je crois que ça peut être aussi très enrichissant au point de vue du métier de forestier que de voilà d'essayer de tirer profit de ce que l'on a fait autrefois et de ne pas se lancer dans une course à de vraies fausses solutions. Hein. On pourrait dire que pour le changement climatique, on va mettre de l'eucalyptus partout, ce qui serait une hérésie. Mmh. Certains seraient prêts à le faire. Non, c'est d'appliquer le principe de précaution. La sylviculture, elle est née en France à la fin du 19e, donc c'est pas nouveau.
Et alors, vous me parlez des futaies, donc c'est ces futaies qui poussent dans la forêt, sous les chênes, sous les frênes. Elles gênent peut-être le travail autour de ces grands arbres, mais par contre, elles ont un intérêt biologique, écologique.
Oui, alors ça me permet de parler de ce qu'on appelle le sous-étage, c'est-à-dire les essences dites secondaires, les arbustes, etc., qui poussent sous les arbres de production. Quand vous allez vous promener dans la forêt, vous voyez des grands chênes ou des grands hêtres ou, voilà, ou des grands pins, et puis dessous, vous avez du charme, vous avez de la viorne, vous avez de l'aubépine. Tout ça est extrêmement important pour l'écosystème forestier, pour la faune, qui trouve par exemple les oiseaux, de quoi s'alimenter sur les arbustes à baies. Ça donne un humus de qualité, ça permet à l'humus d'être varié, donc l'humus, c'est l'engrais de la forêt, hein. C'est extrêmement précieux. Les forestiers se servent de ce sous-étage pour ce qu'on appelle le gainage naturel des essences de production. Alors c'est un terme très barbare, tout simplement quand vous avez sous de grands arbres un taillis relativement épais, ça empêche les bourgeons qui sont présents sous l'écorce des gros chênes, par exemple, de se développer. Donc ça permet aux arbres de production, ceux qui vont donner du bois, que l'on espère être un bois de qualité, ça permet à ces arbres-là de ne pas avoir trop de branches, donc trop de nœuds. Donc finalement, c'est un avantage économique. Mais en même temps, comme tous ces arbustes et toutes ces essences secondaires sont des êtres vivants qui transpirent, etc., ça crée un microclimat forestier, ça protège le sol des rayons du soleil. Imaginez une coupe rase où en plein été, au mois d'août, il peut faire jusqu'à 80 degrés à la superficie du sol. S'il n'y a plus rien pour protéger le sol, ça va entraîner une disparition d'un certain nombre de champignons qui permettent à l'arbre de s'alimenter en eau, etc. Enfin bon, tout ça c'est très complexe, mais en règle générale, une forêt qui n'aurait pas de sous-étage, où il y aurait simplement les quelques deux ou trois essences qu'on utiliserait pour la production, ça serait une forêt extrêmement fragile.
Alors, un arbre, ça met longtemps à pousser. Alors, pour accompagner ce changement climatique, ce dérèglement climatique, il est donc nécessaire d'anticiper.
Oui, un agriculteur, d'une année sur l'autre, il peut changer sa culture, voire en milieu d'année. Il y a un problème, une inondation, une catastrophe, il peut replanter. Le forestier, lui, il agit pour les 50 ans, 100 ans ou 200 ans à venir. Donc, on ne peut pas attendre que l'on constate qu'une forêt, véritablement, est en train de dépérir. Il faut prendre les devants. Alors, c'est compliqué parce qu'encore une fois, c'est un problème de moyens dans tous les sens du terme. Alors, on essaye de faire ce qu'on appelle, par exemple, de la migration assistée. C'est-à-dire qu'on va au-delà des... On sait qu'il va se passer telle ou telle chose dans les 50 ans à venir. Eh bien, au lieu d'attendre que tous les chênes pédonculés dépérissent, petit à petit, on introduit une proportion d'autres chênes plus résistants en forêt. Ça se fait progressivement, ça se voit pas, mais c'est quelque chose qui se développe sur quelques décennies, encore une fois. Mais voilà, c'est ne pas attendre le dernier moment pour agir, quoi. C'est vraiment, c'est maintenant qu'il faut intervenir.
Nous avons parlé d'écologie et d'économie. Est-ce que le dérèglement climatique peut être moteur d'une réconciliation entre l'écologie et l'économie ?
Oui, c'est une très très bonne question. Moi, c'est un sujet qui me passionne assez parce qu'on a trop longtemps opposé d'un côté les forestiers qui produisaient du bois et puis les écologistes qui essayaient de protéger l'écosystème, etc. On a exactement les mêmes intérêts, tous autant qu'on est, c'est d'avoir une forêt en bonne santé. Une forêt en bonne santé, c'est une forêt où il y a des arbres de production, où il y a de la faune, où il y a de la flore. Les conséquences de la tempête de 1999, ça a été une catastrophe économique pour un certain nombre de propriétaires qui ont vu ruiner des décennies d'efforts en très peu de temps, en deux nuits. Mais par contre, ça a été facteur de beaucoup d'enseignements en matière d'écologie. Ça nous a appris qu'une forêt où il y avait plusieurs essences résistait mieux. Ça nous a appris qu'une forêt où il y avait des lisières étagées résistait mieux aux tempêtes. Ça nous a appris que la nature pouvait d'elle-même se reconstruire sans intervention humaine. C'est ce qu'on appelle la capacité de résilience d'une forêt. Et puis peut-être que quelque part, ça nous a appris à être plus modestes, plus humbles dans nos affirmations. Voilà, donc ça c'est le côté positif d'un phénomène qui peut être inquiétant si l'on ne sait pas en tirer les bonnes conclusions.
En conclusion, justement, le dérèglement climatique amène à être vigilant et à ne pas baisser les bras, hein, à l'aperçu.
Voilà, tout à fait. C'est alors être alarmiste, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans le sens du lanceur d'alerte, parce que la situation est préoccupante, parce que c'est un vrai sujet. Nous sommes responsables de ce qui se passera demain et de ce que l'on laissera aux générations futures. Donc on n'a pas le droit de baisser les bras, même si c'est compliqué. Et puis encore une fois, le combat pour la vie, c'est quand même un des plus beaux combats qui soit.
Merci infiniment, Alain Persuit.
Je vous en prie.